18-20.
Le 18-20 à un peu moins de 2 heures du débat télévisé qui opposera ce soir les 5 principaux candidats à la présidentielle. Alors par principaux, il faut comprendre en tête dans les sondages, par ordre alphabétique, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. C'est une première dans la vie politique française. Jamais des candidats n'avaient débattu à ce moment de la campagne et sous cette forme. Alors, comment ces candidats vont-ils politiquement aborder le débat? Et vous, amis auditeurs, qu'attendez-vous de cette confrontation? Pensez-vous, si ce n'est déjà fait, cristalliser votre vote? On en débat jusqu'à 20h dans le téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Je salue Yves de Marseille, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir. Merci, merci. Alors moi, dans votre question, vous parliez de savoir si on était sûr de qui on allait voter. Moi, je voulais dire que non. Écoutez, non, parce que les candidats, en fait, il n'y en a que 5. Et je vois pas pourquoi, en fait, dans ce débat, on prendrait que les 5 en premier dans les sondages. C'est comme moi, je trouve que c'est une sorte de censure, voilà, que ça. Ça ne fait pas trop.
Merci beaucoup pour cette question. C'est les 5 gros et les autres, les petits, comme on dit très souvent, de manière terriblement méprisante. Pour vous répondre, Lénaïque Bredoux, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Mediapart, Dominique Régnier, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Karine Bécard.
Bonsoir.
Journaliste politique à France Inter. Qui veut répondre à Yves sur les 5 gros, les 5 principaux
allez-y,
candidats?
Allez-y, vous n'avez pas de truc à dire.
Allez, Dominique Régnier. Dominique Régnier.
On a eu une discussion avant, c'est pour ça.
Voilà. On parlait justement de ça, c'est bizarre.
Restituez-la nous.
Non, je vous donne ma réaction tout à fait ordinaire. Moi, je suis très choqué par ça, très profondément choqué. J'en comprends l'argument pratique. Mais un moment démocratique, on doit remettre les compteurs à zéro. Il faut bien qu'il y ait un moment comme ça, même si c'est une part de fiction, on sait bien, parce que les forces sont pas les mêmes. On doit remettre les compteurs à zéro, on doit avoir le sentiment que le peuple souverain peut redistribuer les forces. Et quand vous êtes conformé à la règle de droit, vous êtes candidat, vous tombez sur une pratique médiatique qui vous interdit de vous présenter comme... Je suis très inquiet, et je termine là-dessus.
Non, vous prenez le temps, débat, vous avez la parole, vous. Hein.
Ce débat fait débat. Et je trouve que dans un moment où la démocratie, pas seulement en France, mais en France aussi, est interrogée par celles et ceux qui la font vivre, comme une réalité ou une fiction ou des doutes là-dessus qui apparaissent, je trouve que pour ouvrir une campagne présidentielle, c'est terrible. L'intention était excellente, faire un débat de premier tour, c'était très bien. Là, on commence par nous envoyer un message très puissant. Il y a les petits, effectivement, pas sérieux, et puis il y a les lourds, ceux avec lesquels on va pouvoir parler vraiment de politique.
C'est un déni de démocratie, Dominique Régnier?
Ah, moi, je trouve, clairement. Et de droit, et du droit. Je suis très choqué par ça. C'est injustifiable, je pense.
Lénaïque Bredoux.
Non, mais effectivement, moi, je pense que ça pose un problème démocratique pour aussi une raison, c'est que le choix des 5 qui débattront ce soir a été fait sur la seule base des sondages. Parce que on peut pas dire qu'il y ait de critères en termes de résultats précédents aux élections ou de nombre d'élus, qui pourraient au moins être des critères un minimum objectif, puisque dans ces cas-là, Emmanuel Macron ne serait pas là ce soir. Ce qui aurait évidemment semblé absurde à tout le monde. Mais le fait de donner cette place aux sondages pose un véritable problème, une vraie discussion, d'autant plus qu'on sait toutes les inconnues, toutes les incertitudes entourant les sondages. Et donc, du coup, voilà, on a ce débat qui est au cœur de cette question sondagière.
Le principe, oui, c'est la pifométrie sondagière qui a permis de faire l'organisation de ce plateau. Karine Bécard.
Moi, je te trouve un peu hypocrite quand même. Parce que si on regarde nos lignes éditoriales à tous les médias, malgré tout, les 5 principaux candidats sélectionnés, retenus par TF1, c'est ceux qu'on gère nous-mêmes comme des gros candidats. Après, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais moi, je vais me faire l'avocate du diable. Je suis assez contente qu'il y ait ce premier débat ce soir. Parce que j'ai l'impression qu'enfin, la campagne va peut-être démarrer, qu'il va se passer quelque chose, une confrontation d'idées, que les candidats vont enfin s'interpeller, se dire « moi je suis d'accord sur ça, mais tu racontes
n'importe quoi ». Sortir de leur couloir.
Voilà, en espérant que ça marche. En revanche, je pense qu'effectivement, cette séquence-là, elle va être très mauvaise pour les médias. Je pense que l'éloignement qu'il y a, le gap, le fossé qu'il y a entre les électeurs et les médias est de plus en plus grand et de plus en plus profond, et que ça va effectivement pas nous rapprocher effectivement d'avoir fait ce choix de la part de TF1.
En tout cas, il y a énormément de questions sur ce thème au standard du téléphone sonne. On y retourne d'ailleurs. Sandrine, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Écoutez, Écoutez, moi, voilà, je ne regarderai pas le débat ce soir, parce que, outre le fait qu'il n'y a que 5 candidats, mais ce sont 5 candidats qui nous ont montré ce qu'ils étaient capables de dire et de faire au cours des primaires, c'est-à-dire dire une chose et faire autre chose. Je me sens flouée en tant que citoyenne parce que j'ai affaire à des candidats qui ne respectent pas les règles démocratiques. Il y en a qui se permettent de ne pas respecter le pouvoir des juges, de les interpeller sur certaines choses. Il y en a d'autres qui se moquent de ce que disent les juges. J'ai toujours voté, je vote depuis 1979, j'ai voté la première fois pour le Parlement européen au suffrage universel. Mmh. Je vote parce que ma grand-mère s'est battue pour le droit de vote et parce que je crois à la démocratie, mais je suis complètement flouée, déboussolée par ce qui se passe actuellement. Je me sens mais vraiment avilie par ces candidats et je ne regarderai pas ce soir. Mais j'irai voter.
Oui. Vous irez voter, de toute façon.
Pour qui, mais j'irai voter, oui, parce que c'est un devoir de citoyen. C'est pas un droit, c'est un devoir de citoyen. Mais c'est terrible aujourd'hui.
Merci Sandrine pour cette intervention. Qui veut dire un mot? Lénaïque Bredou, Dominique? Oui, Lénaïque, allez-y.
Non, mais effectivement, ce que dit l'auditrice sur le sentiment, enfin, d'être déboussolée, d'être débossédée du débat politique, y compris évidemment à cause de la question des affaires, si j'ai bien compris ce qu'elle voulait dire, a de fait pollué la campagne depuis fin janvier et plus longtemps si on pense au Front National, puisque les mises en cause judiciaires du Front National remontent à bien plus longtemps. Mais en tout cas, dans la campagne de François Fillon et de Marine Le Pen, ça a effectivement conduit à ce que rien d'autre ne soit audible. C'est ce que d'ailleurs répète en permanence Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, en disant, quand ils répètent, la campagne commence maintenant, c'est aussi ce qu'ils espèrent, parce qu'ils sont un peu à la traîne dans leur propre campagne parfois, mais aussi parce qu'ils ont du mal à imposer leur thématique et leur thème de campagne. Après, moi, il y a juste un point, c'est que la question des affaires, c'est à la fois un parasitage, si on veut, du débat politique, mais ça peut aussi être un débat politique, parce que ça dit quelque chose du fonctionnement institutionnel ou dysfonctionnement institutionnel, de la crise démocratique, et que ça, c'est aussi un sujet dont les candidats, les autres en tout cas, peuvent s'emparer pour faire des propositions en termes de transparence, de renouveau de la démocratie, etc. etc.
Dominique Régnier.
Alors, c'est évidemment un climat sans précédent et épouvantable et qui travaille... ça concentre ce qui travaille depuis pas mal d'années notre système démocratique, ce qui l'érode en fait, le sape dans les fondements, très clairement. Ce qu'on songe inévitablement, enfin pour ma part en tout cas, c'est la sortie électorale d'un tel moment, puisque ce qui a été dit là a été très bien dit et avait une certaine radicalité dans le propos, avec des conclusions immédiates, je ne regarderai pas le débat, etc. Et donc, c'est un sentiment sans doute assez largement partagé. Qu'est-ce que ça va faire remonter dans les urnes? C'est-à-dire qu'aussi bien ça peut être « j'en ai vraiment ras-le-bol, j'y vais pas », »,« j'en ai ras-le-bol, j'y vais, mais je vote blanc », qui sont autant de votes de colère qui peuvent favoriser des mécanismes électoraux qui iraient vers la rupture.
Enfin, donc il y a une très grosse inconnue, il y en a de toute façon dans la démocratie. Elle doit fonctionner avec l'inédit, avec l'événement, et on ne doit pas savoir ni prévoir ce qui va sortir des urnes. Mais cette année, il y a une part supplémentaire, d'après vous, Dominique Régnier ?
Il y a une part sans précédent d'imprévisibilité. Par toutes les raisons que l'on sait d'ordinaire, je prends un exemple, Emmanuel Macron n'a jamais été candidat, son mouvement n'a jamais présenté de candidat. Donc techniquement, pour les sondeurs, c'est pas facile et on peut pas leur en vouloir. Mais techniquement, ils sont dans le flou. Alors ils vous racontent qu'ils redressent l'échantillon. Je vais pas développer ce point. Ça me convainc pas du tout.
Ce point, c'est le pifomètre.
Il y a un peu de
repeint
ça.
En science.
D'ailleurs, pourquoi pas que ce soit un peu. Il y a un peu d'artisanat là-dedans. Moi, ça me choque pas.
Vous êtes pour l'artisanat, comme
absolument.
Nous tous, bien sûr. Made in France.
Il y a un coup de main là-dedans. Mais on se dit bon, j'espère quand même qu'on va pas arriver à des résultats trop éloignés.
Mais vous n'y croyez pas, Emmanuel Macron 24, 25, 26. Vous n'y croyez pas, Dominique Régnier?
Non, parce que ce que je trouve étonnant, mais peut-être que les affaires expliquent, ce que je trouve étonnant, c'est quand on regarde ce qui s'est passé électoralement dans le quinquennat précédent, où grosso modo, ça ce sont des données d'élection, grosso modo, vous avez un Front National qui est au niveau de ces sondages d'aujourd'hui, ça c'est sûr, un PS, si on prend le juin 2014, au niveau de son score d'aujourd'hui à peu près. Mélenchon retrouve un peu le score de 2012, enfin jusqu'à présent, on verra bien. Et une droite, alors là, qui est complètement ratatinée, droite et centre. Donc, soit Macron a un électorat qui est presque entièrement de droite, mais là, c'est quand même quelque chose qui étonne, non seulement le sociologue, mais le psychologue du politique, ça, un grand basculement. Soit il y a une erreur dans le calcul. Les risques sont élevés. Il faut quand même bien voir que, je termine avec ça, mais c'est à la fois conjoncturel français, parce qu'il y a des questions d'affaires, on ne sait pas comment les images, l'impact sur les images va durablement affecter les abstentionnistes, qui sont peut-être dans un sas de décompression, mais il y a aussi des tremblements souterrains qui jouent aujourd'hui dans le monde démocratique. Ça, moi, je suis très convaincu de ça. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, qu'on a d'ailleurs mal interprété, mais c'est pas le sujet, ce qui se passe dans beaucoup de pays, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un grand mouvement de souterrain qui touche les démocraties, la France aussi, et c'est ça aussi qui est à l'œuvre en ce moment.
Karine Bécard.
Ben pour répondre à l'auditrice, c'est rigolo, dans sa manière de s'exprimer, en fait, elle dit, voilà, on les connaît déjà, on n'a plus besoin de les entendre. Et c'est vrai que normalement, le débat, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est des révélateurs de personnalité. C'est, on vient écouter le programme, mais on vient voir, en fait, comment ils fonctionnent et comment ils sont capables de réagir à des provocations, à des pics, etc. Et là, c'est vrai que, je vais me concentrer en particulier sur François Fillon, mais on a l'impression que ça y est, on l'a découvert, François Fillon, et qu'on n'a plus rien à venir voir et à venir écouter sur lui. On a découvert un homme qu'on n'imaginait pas, qu'on ne soupçonnait pas,
l'avait redécouvert pendant la primaire et on l'a redécouvert.
Voilà, on a découvert le châtelain avec on lui prête des voitures, il porte des belles montres, il porte des costumes hyper chers. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient découvrir? La personnalité, ça y est, elle a réussi à transparaître.
On retourne au standard. Jean Placide, bonsoir, vous nous appelez de Grenoble.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais faire une révélation à France Inter, qui quelque chose qui va peut-être vous faire rire. Samedi dernier, j'ai vu que de temps en temps, il arrive qu'il y ait des faits divers, et puis on en parle, mais là, ce n'est pas un fait divers. On a vécu quelque chose de très émouvant. J'ai vu des gens à Crolles pleurer devant François Hollande, de voir que François Hollande ne voulait pas se représenter. Ça a été quelque chose d'assez émouvant. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Ce qui m'anime aujourd'hui, ce que j'ai envie d'entendre ce soir, j'ai envie d'entendre trois choses. J'ai envie qu'on me parle que de projets et rien que de projets pour la France et pas d'affaires. J'ai envie d'entendre une deuxième chose, c'est que j'aimerais que l'ensemble des candidats puissent apporter la preuve que la haine, la xénophobie et le repli de la France sur elle-même ne peuvent pas être une alternative à la République. Et enfin, j'aimerais que l'ensemble des candidats puissent dire chacun quelle est la place qu'ils comptent donner à la France en Europe et dans le monde.
Merci Jean Placide pour ces trois questions. Parler des projets et non pas des affaires, dire que le racisme n'est pas une alternative à la République, la France dans le monde, bah espérons que les candidats pourront le faire, Dominique Reynier, non ?
C'est
vrai que chacun fait des propositions, il y a des programmes, ils sont assez détaillés, mais il n'y a pas encore eu le vrai débat autour d'une question importante qui permettrait à chacun de se positionner. Je fais cette parenthèse, je vous rends la parole, Dominique Reynier.
Non, Nicolas Dumont, vous avez raison. Mais en fait, c'est aussi parce que, faut pas l'oublier quand même, il y a eu cette fois-ci, et pour la première fois également... donc attention à ces facteurs inédits qui produiront des conséquences inédites, des primaires qui à droite et à gauche ont peut-être dévitalisé le débat très en amont, ont été très remplis justement de substances programmatiques, c'était même impressionnant. On avait, quand on comparait les primaires françaises à la télé et le souvenir qu'on avait des primaires américaines, on était très fiers quand même. On se disait, c'est quand même...
Deux planètes.
Ça a de la gueule quand même. C'est de la politique, on parle...
Y a des idées.
Des idées, voilà. Bon, ça servait un minimum de tenue. Et donc là, quelque chose comme si tous les forces étaient jouées à ce moment-là. Le jus était passé là. Et puis après, on est arrivé sur autre chose. Et on n'arrive pas à se réinscrire dans la généralité du commun, en quelque sorte, que supposent les projets. J'aime bien le mot de projet employé renvoyé par l'auditeur qui vient d'intervenir, parce que c'est pas tout à fait la même chose que programmer une nation, programmer des individus. Moi, je trouve pas ça très très enthousiasmant. En revanche, se projeter, avoir des projets, c'est, la différence de mots, elle est très importante, je trouve. Et c'est vrai que ça, on n'a pas beaucoup d'horizon. On en avait pas beaucoup en 2012 déjà.
Lénaïque Bredou.
La question, c'est de savoir si tous les candidats ont aussi intérêt à la confrontation de projets. Je me fais un peu l'avocat du diable.
Expliquez-nous.
Non, mais parce que, de fait, il y a aussi des campagnes et des candidats qui surfent sur d'autres mécanismes, sur je suis un homme providentiel, la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, c'est pas le sujet d'un programme. C'est un peu ce qu'a dit à plusieurs reprises Emmanuel Macron. C'est, à mon avis, aussi le cas par moment de Marine Le Pen pour le Front National, qui engrange des intentions de vote par l'assise qu'elle a créée au fil des années, sans forcément avoir envie ni besoin d'aller dans la confrontation précise de programmes, de mesures sur un certain nombre de sujets. C'est moins le cas, par exemple, pour, j'imagine, François Fillon, et pour les deux candidats principaux qui débattront pour la gauche, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Mais pour certains candidats, ils assument aussi de dire qu'une campagne électorale, c'est parfois un marketing ciblé, d'où on s'adresse à des clientèles électorales, parce que c'est les plus captives qui vont aller voter, dont on est sûr qu'elles vont aller voter, et que du coup, on fait un discours très marketé pour telle ou telle population, quitte à dire des choses parfois contradictoires, mais dans le maelstrom médiatique, ça ne se voit pas forcément. Et donc, du coup, c'est pas tout à fait certain qu'on ait cette densité de débats politiques comme on a eu pendant les primaires de LR ou du PS.
Karine Bécard.
Oui, mais ce qu'on va réussir à voir normalement ce soir, c'est celui qui est capable d'incarner, je trouve, son projet. Et plus que une succession d'annonces, de propositions, de mesures, c'est de voir celui qui paraît vraiment sincère pour porter ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui avait parfaitement fonctionné, je trouve, sur François Fillon, qui avait relativement bien fonctionné sur Benoît Hamon, quand on les avait vus l'un et l'autre dans la primaire. Là, on s'interroge beaucoup sur Emmanuel Macron, par exemple. Mm-hmm. Il nous a dit beaucoup de choses, on l'a vu en showman, ça lui va assez bien, ou pas. Mais est-ce qu'il va réussir à incarner tout à coup et à défendre ? Moi, ce soir, vraiment, je suis très, très curieux de voir ça.
Dominique Reynier.
Juste pour... Il y a aussi encore quelque chose qu'on n'a jamais vu dans une présidentielle. Ce sont des présidentiables qui prennent l'avantage, si on suit les sondages, par rapport à des candidats qui, en raison des partis qui les supportent, sont les seuls à pouvoir aligner des candidats aux législatives. Ça, c'est une sacrée bizarrerie quand même, parce que Benoît Hamon et François Fillon sont les derniers représentants des deux grands partis, on va dire, que nous avons. Et assez significativement, ceux qui sont placés en tête, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ne sont pas en mesure de garantir qu'ils auront la majorité pour appliquer leur programme. Ce qui fait que même la question du programme ou du projet qu'ils pourraient présenter ce soir, en réalité, elle est mise en suspension comme ça, comme une espèce de fiction dont la réalité dépendra d'une autre élection que celle-là.
On a le sentiment que c'est ce qui plaît aux Français, en fait. Ça leur plaît de se dire qu'il y a une espèce de choses à inventer, c'est-à-dire de système. Ils ne sont pas forcément anti-système. Ils en ont marre de celui dans lequel ils sont. Ils voient bien quelque chose qui ne fonctionne pas, puisque depuis 30 ans, les solutions ne marchent pas. Donc on a l'impression qu'ils aiment aller vers ces deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Oui, quitte à inventer autre chose.
Qui va obliger une majorité composite. Une majorité qu'on ne connaît pas pour l'instant.
Une nouvelle majorité, Dominique.
Oui, nécessairement un programme qui ne sera pas celui qui est discuté ce soir pour les
Exactement.
Candidats.
Exactement. Oui, par contre, je suis d'accord.
Une question de Sylvain, il y en a beaucoup sur ce thème. Je m'étonne que le débat de ce soir, nous dit Sylvain des Alpes-Maritimes, soit contre Macron. Ils ne vont pas se battre pour être premier, mais uniquement contre Macron. Bonne analyse politique. Ouais. Qui veut rebondir, Lénaï, Karine.
Après, il y a le fait quand même que Macron, je pense à Fillon en disant ça, mais notamment Macron est le plus faible et la cible la plus facile, la plus fragile, puisque son électorat, il n'est pas cristallisé. Il y a plein de gens qui sont intéressés, qui le regardent, qui sont intrigués. Mais quand on analyse un petit peu son électorat, il y en a un sur deux qui dit, bon, bah, pour l'instant, je suis assez sûr de voter pour lui. Donc on a le sentiment qu'il y a une part de marché, entre guillemets, à aller récupérer, à aller choper. Ce n'est pas le cas chez les autres.
Oui, puis il y a le deuil qui a été fait de la première place, non ?
C'est quand même un peu un événement qui s'explique évidemment encore une fois par des éléments objectifs qui sont les élections intermédiaires, comme a dit Dominique Reynier tout à l'heure. De fait, le socle électoral du Front National depuis la présidentielle de 2012 n'a cessé de se consolider autour de tous les scrutins qu'ont eu lieu, que ce soit régionaux, européens, départementaux, municipaux. Mais de fait, ce qui est quand même assez fascinant depuis le début de cette campagne, de cette non-campagne présidentielle, c'est que tous les autres candidats ont acté et accepté le fait que Marine Le Pen serait au second tour et que donc ils intègrent une campagne pour la deuxième place ou la première place, mais en tout cas pour être au second tour, puisque par ailleurs ils imaginent, peut-être à tort d'ailleurs, hein,
qu'elle perdra de toute façon
et que celui qui arrivera,
la deuxième couche,
qui sera qualifié pour le second tour le 23 avril,
gagnera, sera
président de la République. C'est quand même un pari qui pose énormément de questions.
Mmh. Oui, Dominique Reynier.
Je partage tout à fait.
Et je pense que dans le sous-traitement des affaires politico-financières du Front National, il y a cette logique qui est à l'œuvre. De toute façon, elle sera au premier tour, mais sera battue au second. Donc passons à autre chose. Dominique Reynier.
C'est vrai que ce sont les implicites, de moins en moins implicites, de cette étonnante élection. Rappelons qu'en 2002, on s'en souvient tous, enfin peut-être les auditeurs, certains ne s'en souviennent pas, mais on s'en souvient tous, les plus jeunes peut-être, non, mais Jean-Marie Le Pen était une surprise. Là, ce serait une surprise qu'elle ne soit pas au second tour. Donc on fait un chemin incroyable en 15 ans. Hein. Et je suis tout à fait d'accord pour souligner que c'est stupéfiant qu'on puisse prendre le risque de nous expliquer, alors là les sondeurs, je leur en veux un peu, par des sondages de second tour qui ne font pas sens, qui sont pas même, je trouve, moi, déontologiquement acceptables, qu'elle sera battue. Il va se passer quelque chose au soir du premier tour. Il y aura de la politique, il y aura de la dynamique politique, et selon le résultat, moi je trouve que on devrait considérer que c'est une élection qui est complètement ouverte, plutôt que d'expliquer que si on est second, on sera premier.
Mmh. Mais je maintiens quand même, hein, c'est un électorat aujourd'hui qui est difficile à aller chercher, en fait, l'électorat de Marine Le Pen. C'est un électorat qui a complètement adhéré, quoi, à Marine Le Pen. Alors, le fait est qu'il devient de plus en plus nombreux, effectivement, mais dans le camp Fillon, par exemple, on ne s'attaque pas à cet électorat-là parce qu'ils estiment que c'est perdu d'avance. Et donc, on va chercher, là où il est possible, d'en récupérer. Et on pense que c'est chez Macron. C'est pour ça qu'il tape aussi fort dans les meetings, notamment, sur lui.
Florence, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci de prendre mon intervention.
Je vous en prie.
Je considère effectivement que c'est un peu joué avec le feu que de présumer que Madame Le Pen sera au deuxième tour et de laisser les choses en l'état. Je ne suis pas d'accord qu'il faille considérer que l'électorat du Front National est irrécupérable. Posons-nous la question simplement de que recherchent ces gens-là. Ce sont des gens qui ont peur, ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui ont des petits salaires, qui peinent tous les jours. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de solidarité, ils ont besoin de fraternité. Précisément, il y a très peu de candidats qui en parlent. Moi, je vis dans une ville où il y a aux alentours de 13 000 habitants, et nous sommes bientôt un désert médical, parce que mon ancien médecin généraliste vient de se suicider, on a des médecins qui peinent à prendre la relève. Un petit peu plus loin dans mon département, il y a un médecin pour je ne sais combien de centaines de kilomètres carrés. Donc voilà, c'est de ça que les gens ont envie d'entendre parler. Et ils ont aussi envie d'entendre parler de quelle est la position de la France en Europe. Personne n'en parle ou très peu. Comment on réagit face au bruit de bottes du côté de l'Est? Comment on réagit face au mépris souverain que les États-Unis affichent pour l'Europe, laissant Angela Merkel en plan, etc. Enfin, voilà, c'est d'un mépris souverain.
Alors vous venez, Florence, je suis désolé, nous ne sommes pas ni hommes ni femmes politiques, mais vous venez de donner les thèmes de deux ou trois des téléphones sonnent qui arrivent dès demain pour les déserts médicaux et dans le courant de la semaine ou au début de la semaine prochaine pour la politique européenne et internationale. On a intitulé ces téléphones sonnent la campagne invisible, et c'est vrai que ce sont des thèmes massifs qui ne sont pas débattus. Florence parlait de la politique étrangère, moi je ne sais pas. Alors, encore une fois, il y a des propositions, mais quelles sont les lignes de force sur le débat européen, sur la question des États-Unis, sur la question de la Turquie, sur la question de la Russie, même du terrorisme, Dominique Reynier? Moi, je n'ai pas souvenir d'une campagne qui ait laissé toutes ces questions essentielles en plan. aussi près du premier tour.
Absolument, oui, oui, non. Et puis sur, y compris Nicolas Demorand, les questions qui ont été abordées à l'instant, là, sur les déserts médicaux, etc., auxquelles vous dites que vous allez consacrer des biens, c'est des grands sujets immenses, ça, qui sont dans le quotidien, même de manière presque obsessionnelle, la préoccupation est grande, ce sont des tragédies, d'ailleurs, on l'entendait au récit qui a été fait à l'instant, c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout, et la réalité, elle est que les candidats sont assez désappointés, hein, face à ces questions-là. Il n'y a pas d'idée, par exemple. S'agissant des déserts médicaux, moi j'écouterai votre émission avec beaucoup d'intérêt, parce que quand on cherche des réponses, beaucoup a été essayé, et puis c'est pas satisfaisant, et puis c'est très compliqué, etc. Bon, on ne veut pas faire l'émission là, mais c'est cependant ce que les gens demandent. Et j'ai été frappé de voir que le sentiment dominant aujourd'hui à l'égard de la campagne électorale, d'autres sondages le montrent, de manière massive, on ne parle pas des questions que nous nous posons, que l'on se pose. Mais des questions politiques, pas des questions égoïstes, des questions politiques. Elles ne sont pas traitées. Elles ne sont pas traitées parce qu'il y a une forme d'incapacité ou de désarroi des candidats à prendre en charge avec de véritables propositions.
Mais ni les questions qui concernent la main gauche de l'État, ni la main droite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse sur les déserts médicaux, mais sur les sujets dits régaliens, entre guillemets, il n'y en a pas plus.
Non, non. Et puis, là, c'était très bien, vraiment, tout ce qui a été dit, parce que faire surgir comme ça Trump, Poutine, Erdogan, enfin, et puis le terrorisme, comme vous le disiez, c'est quand même le rappel que notre situation historique est très, elle est prometteuse et puis menaçante. Il y a les deux aspects. Et sur les aspects menaçants, non, on ne trouve pas de réponse. Ça n'est pas débattu d'ailleurs. Il y a une espèce de consensus à ne pas en discuter.
Lénaïque Bredoux.
Je pense qu'il faut quand même relativiser dans l'absence de proposition. C'est-à-dire, je pense qu'elle passe pas le mur du son. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. D'absence de débat, de confrontation, de leur vision, de leur proposition en termes de matière de santé, par exemple. Parce qu'effectivement, comme à chaque élection, on peut toujours se raconter une autre histoire, mais à chaque élection, les gens y votent sur l'amélioration de leur vie quotidienne, ce qui paraît quand même relativement logique quand on y pense, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont trouver du travail, combien ils vont être payés, est-ce qu'ils vont trouver un logement, est-ce qu'ils vont pouvoir assurer leur santé, etc., etc. Enfin, qui sont les préoccupations, est-ce qu'ils vont vivre en sécurité, etc. Enfin, qui sont les préoccupations au cœur de la vie quotidienne des gens. Quand on voit, bon, moi, pour avoir suivi plus particulièrement, hein, c'est pas un biais personnel, c'est mon travail tout simplement, les meetings de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon, de fait, ils ont fait des meetings spécifiques sur ces questions.
Sur la vieillesse.
Exactement, dont les propositions, même leur vision de comment ça devait être, etc., est complètement passée inaperçue, parce que voilà, dans le moment politique dans lequel on était, ça ne passait pas. Et par ailleurs, il y a sans doute aussi, une perte de crédibilité par rapport aux promesses de campagne, parce que on voit bien, quand on prend évidemment, là je parle plus spécifiquement de la gauche, parce qu'on sort par ailleurs d'un quinquennat où le Parti Socialiste était au pouvoir, il est toujours hein, jusqu'au mois de mai, où la désillusion de l'électorat socialiste est liée à un sentiment de promesses non tenues, alors plus ou moins justement en fonction des sujets, peu importe, mais en tout cas, ce sentiment de désillusion, et à mon avis, la difficulté d'une partie des candidats, c'est de faire croire qu'ils vont y arriver.
D'où la théorisation du non-programme chez Emmanuel Macron pendant très longtemps, consistant à dire « je ne vais pas faire une liste de mesures qu'on me renverra à la figure si je suis élu pendant 5 ans ». Karine Bécard.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec Lénaïgue. Pardonnez-moi. Juste pour rajouter, il y a cette idée peut-être qu'il n'y a plus de crédibilité, mais voilà, est-ce que les propositions qu'ils font pour qu'ils passent le mur du son sont suffisamment, enfin donnent le sentiment à l'électeur que c'est possible. Ce que je veux dire par là, c'est sur les déserts médicaux, par exemple, ils ont tous des idées, en fait, si on regarde bien, chacun sa proposition, mais c'est pas des propositions qui donnent le sentiment de sortir du problème dans lequel on est. Donc, du coup, on le retient pas.
La proposition de faire de la discrimination positive en France, formulée par Emmanuel Macron à propos des quartiers, je pense qu'il y a 5 ans encore, cette mesure aurait mis le feu au débat public en disant mon Dieu, nous sommes républicains, la République ignore les communautés, pas de discrimination positive, tout ça est un scandale. Enfin, quand on se souvient de la violence des débats qu'il y a eu à chaque fois que quelqu'un a voulu faire de la discrimination positive en France, là c'est passé, mais totalement
Nicolas Sarkozy l'avait proposé, et on a le sentiment qu'on tourne en rond finalement, que les mêmes solutions sont systématiquement proposées avec quelques années de différence, donc tout ça ne solutionnera pas les problèmes
mais
qui
là,
se posent.
Mais là, je trouve qu'il y a un manque de débat, tout simplement, d'arène, peut-être que ce soir, ce sera la bonne. Lucie, bonsoir.
Oui, bonsoir. bonsoir.
Nous vous écoutons, Lucie.
Je vous appelle pour vous demander si vous ne pensez pas que les sondages font un peu fausse route en ne se concentrant pas assez sur ce qui est dit et les opinions qui sont émises sur les réseaux sociaux, que ce soit envers les petits candidats ou même les gros candidats. J'ai l'impression en fait que les affaires ont fait beaucoup de bruit mais qui n'ont pas vraiment touché que ce soit Monsieur François Fillon ou Madame Le Pen. Quand on voit les commentaires laissés sur les réseaux sociaux, on n'a pas vraiment l'impression que les gens soient touchés par ça.
Merci Lucie pour cette question. Je salue Charlotte de Lyon.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Charlotte, bienvenue.
Oui, bonjour. En fait, je voulais vous poser une question, c'est-à-dire en fait, quel rôle vous pensez avoir, c'est-à-dire vous les médias, dans cette campagne politique présidentielle ? Puisqu'en fait, moi j'ai l'impression, enfin pour ma part, je pense être politisée, je me renseigne, j'ai lu les programmes des différents candidats, et j'ai plutôt l'impression que ce sont les médias eux-mêmes qui tournent en rond. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait des études, vous savez le sens des mots, vous connaissez le sens des mots, vous utilisez des mots, des médias, de l'image, etc. tous les jours. Et pour l'instant, moi j'ai l'impression que les médias s'arrêtent plutôt sur des personnalités, sur des éléments de détail, que sur des programmes, parce que des programmes il y en a. Et peut-être que si on en parlait, si vous en parliez à des gens qui du coup passent uniquement par les médias pour s'informer, peut-être qu'ils seraient au courant de ce qui peut changer ou non, de ce qui est proposé par les différents candidats ou non.
Vous êtes frustrée, Charlotte, comme citoyenne, de ne pas avoir ces éléments-là ?
Non, je ne suis pas frustrée pour moi, mais je suis frustrée, en fait, de l'impasse, en fait, qui a lieu actuellement au sein des débats, et notamment à travers ce que vous, les médias, vous nous communiquez.
Mmh. Restez en ligne, Charlotte, on va essayer de vous répondre. Alors, il y a deux questions, il y a celle des sondages par rapport aux réseaux sociaux, et ensuite le rôle d'information des médias. Lénaïque Bredou, pour commencer, campagne et réseaux sociaux.
Non, mais je pense qu'il y a autant de biais dans les réseaux sociaux qu'il y en a dans les sondages. C'est-à-dire dire que parce que sur les réseaux sociaux, ce serait différent des sondages. Enfin voilà, je pense que de toute façon, rien ne suffit à mesurer. Il n'y a pas de thermomètre parfait. Le seul qui va fonctionner, c'est le résultat du premier tour le 23 avril et rien ni personne avant. Et on ne peut pas aujourd'hui prédire un résultat. Quand il suffit d'interroger son entourage, demander à sa famille, ses amis, s'ils savent pour qui ils vont voter. Le résultat est impressionnant. C'est-à-dire beaucoup de gens ne savent pas pour qui ils vont voter. Donc,
ce
qu'on mesure aujourd'hui, c'est les plus convaincus. Pareil sur les réseaux sociaux. Alors après, voilà, avec des redressements, etc. Mais il y a des biais partout. Et encore une fois, le vrai sondage, ce sera le premier tour.
Et sur le traitement journalistique de la campagne, que pouvez-vous répondre à Charlotte ?
Non, mais effectivement, on a une responsabilité collective. On va pas dire, c'est juste le débat politique, c'est juste, je sais pas. Voilà, de fait, on a aussi chacun des biais, chacun des difficultés à faire parfois des papiers thématiques qui sont parfois plus difficiles, plus compliqués à monter. Moi, juste, je me répète, mais je pense que les affaires ne sont pas une question non politique. C'est-à-dire, je pense que c'est ce que ça dit. Ça dit aussi, ça explique aussi le désarroi et le dégoût d'une partie de l'électorat et de la population pour la politique, parce que dans tous les cas, si on prend le cas de François Fillon et de Marine Le Pen, il s'agit de délits, en tout cas dont ils sont accusés évidemment, relevant de l'exercice de leur fonction. C'est-à-dire que ce soit les assistants parlementaires de François Fillon, les assistants parlementaires de Marine Le Pen au Parlement européen ou la mise en cause du Front National dans son financement de campagne, ce sont des sujets qui sont directement liés avec l'exercice de leur mandat, de la chose politique. Ça, pour moi, c'est aussi un débat politique, c'est un débat sur notre fonctionnement, sur le fonctionnement démocratique, et c'est aussi un sujet, encore une fois, dont on ne peut pas dire qu'il soit déconnecté. Ça n'a rien à voir avec un délit, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui aurait roulé trop vite sur une autoroute. Voilà, c'est un sujet politique.
Karine Bécard.
Sur les médias.
Oui, sur le traitement médiatique de la campagne.
Je vais regarder par le petit bout de la lorgnette, France Inter. On est capable du meilleur comme du pire, j'ai envie de dire. Voilà, le meilleur, c'est le programme chaque matin est détaillé dans le journal de 8h sur France Inter. Voilà, Frédéric Mettezo, le chef du service politique, prend un sujet chaque jour. Ça fait déjà 15 jours que c'est comme ça. Ça durera jusqu'à la fin. Et on essaye et on parle des sujets, des programmes de chacun des candidats. Enfin, vraiment, on raconte tout. Alors, est-ce que c'est audible ? Est-ce que les gens sont sont capables ou ont envie de l'entendre, je ne sais pas. Et en même temps, on est capable du pire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'affaire François Fillon. Ça a systématiquement fait les ouvertures de journaux. Et à côté de ça, quand on a essayé de parler du fond, du programme de François Fillon, au moment où il a essayé de relancer il y a une semaine ou 10 jours, le sujet, il n'a pas fait l'ouverture du journal. C'est une évidence aussi. Donc, on essaie de bien faire et puis on n'y arrive pas forcément, c'est certain.
Dominique Régnier.
Un mot sur les affaires. Les affaires sujets politiques, la difficulté, je trouve, c'est que là, c'est surtout un sujet juridique, c'est une question de magistrat. On discute de politique à propos d'imputations de responsabilité, sur lesquelles on ne tranchera qu'après l'élection. Moi, j'en viens à souhaiter, je le dis très sincèrement, j'en viens à souhaiter qu'après la présidentielle, les magistrats nous diront, on avait de sérieuses raisons de parler de tout ça. C'était vraiment très grave ce qui s'est passé. Et heureusement qu'on s'y est pris avant le premier tour. Parce que j'imagine une situation différente où après le second tour, on nous expliquerait que finalement, c'était pas très jojo, mais il n'y avait rien. Là, ce serait très préoccupant.
Vous pensez au patron du FBI dans la dernière ligne droite de la campagne Trump-Clinton?
Non, je ne pensais pas à des questions de... Je ne sais pas si c'est d'intervention ou de manipulation ou autre. Non, je veux dire, le problème des affaires, c'est qu'il y a une substance qui a à voir avec le droit. On est dans l'imputation de faute ou de responsabilité. On peut en parler politiquement, ça produit plein d'effets politiques. Les effets sont là. La réalité elle-même, elle sera à un moment donné tranchée en droit par des magistrats dont c'est le métier et qui le feront correctement, j'en suis sûr. Mais simplement, ça viendra après. Et donc, on peut espérer que ce sera proportionnel aux effets politiques immédiats de discussion sur des faits imputés.
Mmh. Lénaïque, vous voulez dire un mot ou... Oui.
Non, mais juste, sans rentrer évidemment dans ce que sera la décision judiciaire sur ces affaires. Enfin, personne ici n'est qualifié pour le faire. Mais par contre, de fait, ça suggère des débats qu'il y a dans certains programmes de certains candidats sur l'interdiction des emplois familiaux à l'Assemblée nationale ou pas. Est-ce que ça a du sens ou pas? Sur les obligations de transparence, sur le cumul des mandats. Enfin, sur tous ces sujets qui ne sont pas des sujets minces, parce que par ailleurs, en dehors de ces affaires judiciaires-là, c'est des préoccupations qui sont aussi, quand on fait un moindre reportage, et je suis sûre que quand vous-même vous étiez parfois en campagne ou dans vos travaux, vous avez été confronté à ces discussions sur la défiance vis-à-vis des élus, la défiance vis-à-vis des politiques, et du coup ça c'est des sujets qu'on voit aussi arriver dans les discussions comme quelque chose de politique au sens noble du terme.
Quand je me suis présenté en 2015 aux élections régionales,
sous la casaque LR,
en Occitanie, à l'ère UDI, Modem, chasse, pêche, nature, tradition.
C'est long. Il y a un certain nombre d'auditeurs qui trouvent scandaleux que vous soyez à ce micro, oui, présenté comme politologue alors que vous étiez un homme politique.
J'ai souvent cette discussion-là. Et c'était
je vous envoie le paquet.
C'était une expérience passionnante et très publique. Quand on est candidat, c'est public. La principale qualité qu'on m'a trouvée, c'est que je n'avais jamais été candidat. C'était ce que l'on me disait. Quand on me trouvait une qualité, c'était celle-là. Donc ça en dit long sur la...
Ça a donné combien, le résultat final?
Au niveau de la région, 20%.
Bien, écoutez, merci à tous les trois. Lénaïque Bredou, journaliste politique à Mediapart. Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, je le dis puisque c'est vrai. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, ancien candidat Les Républicains. Karine Bécard, journaliste politique à France Inter. En tout cas, on va regarder ce débat avec beaucoup d'appétit et de curiosité. Peut-être qu'il sera de très bonne qualité, comme l'ont été un certain nombre de débats de la primaire. Merci amis auditeurs d'avoir été si nombreux au standard ce soir, le journal à suivre.